Eh ben rebonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la première rencontre de cette session hiver, ce qui s'appelle Nostalgie du Punk. Je suis avec d'éminents spécialistes de plein de choses et pas toujours du skate et du surf, et c'est tant mieux. À mes côtés, il y a Yann, donc Small Axe Graph, il expose là. Guillaume Sabin, qui est ethnologue. Arnaud Le Gueflec, qui est auteur, entre autres. Et aussi musicien et tout ça. Et derrière, il y a, je ne sais plus dans quel ordre ça est, Franck Zippo et Michel Jaguar. Vincent et Julien, les Vinyl Lovers, vous les avez peut-être déjà vus lors de la session automne. Ils avaient fait un petit extrait de la création à venir pour le 25 avril, la session printemps, puisqu'ils vont recréer en ciné-concert Paranoid Park, le film de Gus Van Sant. Et donc là, c'est nos témoins du jour. Et ben, vas-y, balance juste le son.
Nous avons déjà parlé et présenté d'ailleurs le phénomène punk. Punk, c'est un mot anglais qui veut dire minable, moche. Les punks se font remarquer par une tenue volontairement minable, provocante, preuve qu'ils attachent peu d'importance à ce qui peut paraître important à d'autres personnes. Les punks aiment la musique et en particulier le rock and roll.
Merci, c'était une petite introduction en forme de pastille. Pour toi, Yann, le punk en trois mots.
Irrévérence. Marginalité. Et puis peut-être désenchantement. Une vision désenchantée, peut-être, du monde. Ouais, je dirais ça.
Ok.
Ces trois choses-là, ouais.
Guillaume.
Ça, on m'entend, oui.
Ouais.
Ça va être trois lettres. DIY, do it yourself. On y reviendra, je pense.
Ouais, ok. Arnaud ?
Trois mots.
Ouais.
C'est pas beaucoup. Hein. Dissidence et émotion forte.
Ok. Les garçons ?
Émancipation, marge et autodérision.
Moi, en un seul, mais en trois syllabes, liberté.
Ok. Au hasard, dans la salle. Qui a trois mots à dire, même un ?
Foutre le bordel.
Yes. D'autres propositions ? Le punk. Pour vous, c'est quoi le punk ? Vive le moment présent. Rien à foutre. No future, ouais, c'était le slogan. Eh ben, c'est parti. Donc Arnaud, tu as juste utilisé trois mots, mais en deux expressions. Toi, le punk, un moment, t'es tombé dedans. Comment ça s'est passé pour toi ?
Comment ça, c'est une longue histoire, mais là j'ai plus de trois mots pour développer. C'est sans doute la recherche d'une musique underground, quoi, au départ. J'avais l'impression de vivre dans un monde un petit peu conformiste, un petit peu quand j'étais petit, quoi.
C'est quel âge ?
Le collège, quoi. On se fait un peu chier, il se passe pas grand chose, les perspectives culturelles sont à peu près nulles. Je vivais dans un petit bled en Normandie, et puis il y avait le Juste Prix à la télé, et puis le top 50, quoi. Et puis tout d'un coup, en ce qui me concerne, moi, c'était la rencontre avec ce type de culture. C'était une cassette échangée par deux gars dans la cour du collège. Et tout d'un coup, il y a un gars qui donne une cassette à un autre gars, et puis c'était des gars un peu pas très fréquentables. Ils avaient un sac US écrit au marqueur dessus, vous voyez, et puis les cheveux un peu rasés sur les côtés. Donc il me faisait un peu peur. Et il s'échange une cassette, et cette cassette, c'était Concerto pour détraquer de Berruyer Noir. Et donc sur la pochette, il y avait deux types avec des masques, ça faisait très peur. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Parce que ça correspondait à rien de ce que je connaissais, ça correspondait pas à la musique qu'on entendait. Et à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, on n'avait pas accès à autre chose que ce que la télé nous proposait ou ce que la bibliothèque du coin nous proposait. Donc c'était la découverte qu'il y avait une culture qui existait en dehors de tout ce qu'on connaissait. Et donc, c'est la première fois que je suis rentré en contact avec l'underground, quoi. Un underground qui, en plus, connaissait une certaine audience, puisque dans tous les collèges de France, il y a des gamins qui se passaient cette cassette ou d'autres cassettes du même type. Sous le manteau, il y avait une espèce de phénomène, un peu de... une certaine forme de succès autour de cet underground-là, ce qui n'est pas le cas tout le temps des musiques underground, quoi, qui sont parfois, par définition, appelées à rester confidentielles. Et là, il y avait vraiment un truc qui se passait. Et donc, ça a été le point de départ, ouais, de mon intérêt pour ce genre de musique underground au sens large.
Et du coup, tu fais de la musique ?
Oui, je fais de la musique depuis les années 90. Oui, ça commence à dater un petit peu. Et c'est,
ça a été prépondérant pour toi, le punk, dans ton apprentissage de la musique ?
Ben oui, ça a été prépondérant, même si moi, personnellement, ce n'est pas du punk que je faisais. Mais par contre, j'ai retenu de ce monde-là quelques principes, on va dire, quelques méthodes qui consistaient à... on voyait bien que c'est des gens qui enregistraient eux-mêmes leur musique souvent, pas tout le temps, mais parfois, et puis qui la produisaient eux-mêmes, qui la diffusaient eux-mêmes, qui organisaient eux-mêmes les concerts et tout ça. Et ça m'a énormément marqué, parce que je me suis dit que c'était une forme de liberté, c'est-à-dire qu'on pouvait faire soi-même, ce que disait tout à l'heure Guillaume, do it yourself, faire les choses par soi-même et puis se débrouiller un peu tout seul sans attendre que une sorte de lumière tombe du ciel ou que quelqu'un vienne vous tendre la main, quoi. Donc ça a été pour ça, ça m'a amené ensuite à faire de la musique. Ça correspondait aussi au milieu des années 90, c'est la première fois qu'on avait accès à des magnétophones 4 pistes à cassette qui permettaient d'enregistrer sur la première piste la guitare, sur la deuxième piste la voix, sur la troisième piste des claquements de mains. Et puis il restait encore une piste pour faire autre chose si on avait envie. Et on pouvait fabriquer sa cassette tout seul. Alors ça, c'était une révolution. Après, l'ordinateur est arrivé avec la MAO et tout ça. Donc c'est encore autre chose. Mais c'était, on avait carrément les moyens, tout d'un coup, de faire la musique un peu tout seul. Soit en montant un groupe, soit en se débrouillant avec un 4 pistes. Donc ça m'a amené à créer un label, puis à organiser un festival, etc. Et tout ça, rétrospectivement, je me suis rendu compte que ça venait de Berruyer Noir, au départ, quoi. Et de l'exemple de ces gens-là qui, finalement, nous ont montré qu'ils ont créé une forme de jurisprudence, c'est-à-dire, oui, tu peux le faire puisqu'on l'a fait.
Et donc là, il y a quelques temps, tu viens de publier donc une BD avec Nicolas Moog au dessin, « Vivre libre ou mourir », donc l'histoire du punk en France. Comment, oui, voilà, qui est juste derrière, merci Vincent. Et il y a des planches qu'on voit passer de... Pourquoi tu as eu cette envie-là de parler du punk ?
C'est une BD sur le punk français de 80 à 89. On a placé des curseurs temporels. Alors c'est en gros, si on devait essayer de faire de découper tout ça, c'est un peu la deuxième vague du punk français, quoi. Il y a eu une première vague un peu contemporaine de ce qui s'est passé en Angleterre. Et puis il y a eu en France un phénomène un peu à partir de 81, à l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, ça a coïncidé avec tout ça. Et une deuxième vague de punk qui était moins dans le destroy et plus dans l'autogestion, le fait de gérer soi-même, de monter son label, de gérer ses conditions de production, etc. Enfin, des punks plus politisés aussi. Et donc, nous, ce qui nous a intéressé, c'est on l'a vécu avec Nicolas Moog, parce qu'on était trop jeunes pour le vivre vraiment en première ligne. Mais on a vu passer ses cassettes. Ça nous a accompagnés pendant toutes nos années collège et nos années lycée. On a vu ça se faire de plus en plus, en étant de plus en plus conscient de ce qui se passait. Mais quand on est arrivé à 15-16 ans, c'était fini. Donc, on a eu l'impression d'être frôlé par une espèce de comète. Vous voyez, et avec Moog, on s'est dit, mais... En fait, on va faire une BD sur comment on a vécu ça et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est comme si on avait vu se dérouler juste sous nos yeux, assez loin, mais quand même sous nos yeux, une des dernières grandes aventures rock'n'roll. Il y en a eu d'autres depuis, il y en aura d'autres après, mais il s'est passé un truc tout à fait unique, tout à fait particulier, et notamment dans ce pays, pas seulement, mais en France, il s'est passé un truc particulier à ce moment-là. Donc on a voulu faire la BD pour comprendre. Parce que comme dit Jean-Claude Carrière, vous connaissez le scénariste, je l'ai rencontré quand je faisais un autre projet, il m'avait dit cette phrase qui m'a vachement marqué, si tu veux bien connaître un sujet, t'as qu'à écrire un livre dessus. Donc c'est ce qu'on a fait. Ouais.
Les garçons, s'il y avait un son emblématique, qu'est-ce que vous nous passeriez comme...
Je sais pas, on ne s'est pas concerté avec eux, mais il y a Minor Threat, qui résume peut-être un peu tout ce qui vient d'être dit, puis qui est très très lié à la culture skate. Donc on voit ici le leader Ian McKay qui est replié sur lui-même. Et donc je sais pas, la chanson Minor Threat par exemple, qui, c'est beaucoup d'autodérision, on est juste une menace toute petite en fait. Voilà, donc ça c'est aussi très punk de se dire que en même temps on fait un truc important pour nous-mêmes parce qu'on le fait, on est dans l'action, et en même temps on est dérisoire quoi. Donc je mets Minor Threat, ça va à tout le monde.
C'est parti. Donc ce que tu nous prépares, c'est un vinyle.
Tout à fait.
Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui sont trop jeunes.
Nous sommes juste une menace mineure. Juste, il y a le straight edge derrière qui veut dire c'est un mouvement. Voilà, justement, c'est plus politisé. Le punk s'est politisé et ils se sont dit avec le straight edge, les punks, par exemple, Ian McKay qui est plus ou moins inventé ce mouvement avec le hardcore. En gros, plus d'alcool, plus de drogue, parce que ça détruisait le milieu justement punk. Donc pour récupérer les conditions de production et être vraiment acteur de sa ligne, même plus de sexe. Hein. Il y avait plus d'alcool, plus de sexe, voilà, plus de drogue. Petite parenthèse, voilà.
Merci Vincent. Guillaume, toi tu es un observateur de la société, tu en es aussi acteur et tu es même engagé à travers des pratiques collectives. Tu viens de sortir chez Libertalia, donc cet essai qui s'appelle Dévier, tu vas pouvoir nous en parler, mais... Je t'ai invité parce que je te connais, que tu travailles aussi sur un projet lié au skate, qu'on a accueilli un petit extrait un moment et qu'on reprogrammera la saison prochaine. T'es pas en soi un spécialiste du punk, mais quand même, on associe souvent le punk à la marge. Et toi, la marge, tu l'observes, tu la vis. Pourquoi est-ce qu'on considère que c'est la marge? Parce qu'il y a une norme et une marge. Bref, t'as mis les pieds dedans. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça?
Bon, je dois dire que quand tu m'as invité pour parler de punk, je me suis dit, merde, il y a vraiment beaucoup plus d'autres spécialistes que ça. Et en plus, la thématique nostalgie du punk, ça ne me parlait pas trop parce que moi, j'ai découvert le punk il y a juste quelques années pour la préparation de cette enquête là, qui a donné lieu à l'ouvrage Dévié. Et ethnologue, en fait, c'est effectivement observer la société et la vivre de l'intérieur. Et j'ai rencontré, on va dire, des gens qui étaient dans une mouvance punk dans ce cadre-là, deux scènes qui parleront. C'est qu'on est en plein Covid, je reviens de plusieurs mois en Espagne, et une copine me dépose dans un hameau en cours de rénovation où la veille au soir, il y a eu un gros concert punk, malgré les confinements. Et on arrive en fin de matinée, et là, il y a un gars qui sort d'une maison et qui a dû se raser sans miroir. Donc, il est carrément, mais ensanglanté. Et il s'approche de ma copine pour lui faire la bise. Et elle lui fait « Mec, là, il faut déjà que tu te regardes dans un miroir avant de... » Bon, voilà, pour voir où t'en es. Et j'arrive dans ce milieu pour plusieurs jours. Et moi, j'ai pas du tout la culture musicale punk. Mais là, je rencontre des gens qui organisent des concerts, qui font partie de groupes punk et qui sont surtout et aussi des fous de bricolage. Le DIY, le do-it-yourself, fais le toi-même, c'est faire avec les moyens du bord. Et c'est des gens qui rénovent des baraques, aménagent des fourgons, bricolent leurs bagnoles, etc. Et qui ont décidé de... à peu près tout savoir-faire en termes de bricolage, de récup, de coups de main, etc. Ça, c'est la première scène qui me confronte au punk, au-delà du stéréotype fringue, crête, même si certains en avaient, et de se dire, ah oui, il y a quelque chose de plus profond là-dedans. Et la deuxième rencontre, c'est avec un groupe de skateurs, Touche à tout, qui, à Rennes, squatte une friche industrielle. Et derrière les hautes herbes, ils ont construit un skatepark avec des modules auto-construits en allant voler des sacs de béton dans les chantiers d'à côté parce que la ville de Rennes se civilise. Et du coup, il y a des constructions d'immeubles tout autour avec des complicités des ouvriers qui oublient de fermer la porte des chantiers le soir pour que la petite bande puisse récupérer tout le matos nécessaire à la construction de ce skatepark. Et dans cet univers-là, totalement incroyable, parce qu'on est au milieu de la ville de Rennes, il faut pouvoir connaître pour arriver sur cette zone-là. Et à la fois, il y a des voisins qui viennent promener leurs chiens, des enfants qui viennent avec leurs parents, qui demandent « mais est-ce que c'est payant ici pour skater ?» Des fêtes qui durent toute la nuit, de l'accueil de SDF. Et tout ça fabriqué avec zéro thune, vraiment, que de la récup et un peu de chour. Et au-delà de l'aspect bricolage, dans ce monde-là qui est pour moi très punk, il y a l'idée du no-border, de pas de frontières. Dans le film qu'on voyait là tout à l'heure avant le débat, là, on voit des skateurs sauter des grilles, etc. Je trouve que c'est une belle image pour dire que on est dans une société qui enferme physiquement, mais aussi qui cloisonne les classes sociales. Et là, dans ces pratiques du skate de rue, du DIY, de soirées musique organisées à l'arrache et pas tout à fait, on croise tout type de personnes. Et on pourrait parler aussi longuement de la pratique du squat. Hein, cette petite bande de skateurs touche à tout. Elle le dit, hein, ici sur cette friche, on n'est pas chez nous, on n'a pas à fixer de règles. Et d'ailleurs, ils construisent deux petites cabanes sur cette friche-là. L'une, c'est une bibliothèque, et l'autre cabane sert de lieu de regroupement et de bar quand il y a des fêtes. Et ces lieux sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et il vient qui veut. C'est la notion de refuge au sens montagnard du terme. Ça veut dire qu'on peut y venir et il n'y a pas à demander de clé puisqu'il n'y en a pas. Voilà, ça c'est les deux événements qui me confrontent à une culture punk, l'une vraiment revendiquée et l'autre qui passe par de la musique, du skate de rue et la pratique bien chevillée au corps du DIY. Voilà ce qui me... Et du coup, j'en parle jamais avec nostalgie. Tout ça est très récent et on pourra reparler de la nostalgie du punk, mais alors ça ne me parle pas du tout. Surtout pour un mouvement qui parle de nos futurs, non pas comme il n'y aurait pas de futur, mais plutôt, comme ça a été dit dans le public, de vivre le moment présent et d'assumer le monde tel qu'il est, même quand il va mal. Mais on pourra en reparler après.
Exactement, on va en reparler tout à l'heure. Un deuxième son, les Vinyl Lovers. C'est le principe. On vit le moment présent.
Je vais parler de cette gauchette alors.
Mais prends ton micro.
Ouais, pardon. C'est pas Deny Everything ou...
Donc ça, c'est un des groupes
Word,
qui ont été mentionnés dans le documentaire de tout à l'heure.
Sinon, le premier de la deuxième phase. Bah, j'en parle parce qu'on est dans le skate encore. Et en fait, on a entendu parler dans le documentaire des Circle Jerks, qui est un groupe fondateur important dans le mouvement hardcore, hein, juste après le punk, dans le début des années 80. Et en fait, la photo qu'on voit au milieu de cet album, qui s'appelle Group Sex, Pour la petite histoire, elle a été prise sur un skatepark de Los Angeles, enfin du centre ou des suburbs de Los Angeles. Et en fait, il y a eu un recadrage de la photo. Et j'ai vu une interview il n'y a pas longtemps de Tony Hawk qui explique qu'en fait, il était tout gamin à l'époque. Il était en train de skater et il a vu un regroupement avec justement les Circle Jerks qui étaient là. Il s'est mis sur la photo, mais en fait, il n'est pas dans l'image. Donc la petite histoire, c'est qu'en fait... Normalement, sur la pochette agrandie et la photo entière, on voit Tony Hawk dans cette image, mais il n'est pas là. Voilà. Donc c'est une non-histoire, en fait. C'est les Circle Jerks, et puis on va s'écouter un morceau. Il s'assoit, il assoit le monde sur son cul, hein, en gros. Hein. Des gros branleurs, hein, les Circle Jerks.
Merci les garçons. Yann, ouais. Le punk, ça te parle comment? Parce qu'on en trouve, une forme. On en reparlera tout à l'heure, mais est-ce que le punk est contestataire? Oui. Est-ce qu'il est contestataire dans les mots? Pas toujours. Est-ce qu'il est contestataire dans les actes? Oui. Toi, c'est par l'art que tu exprimes quelque chose.
Ouais, parce que la musique, j'avais pas aucun talent pour ça, donc c'était les arts graphiques, ouais. J'ai une adolescence à Rennes. J'habite dans le centre-ville. On a pas mal de liberté. Et on peut pas échapper au rock, donc on est tous plus ou moins punk. Alors il y a tous les courants qui sont représentés. Il y a des psychobilly, il y a des gothiques qui écoutent le post-punk. Enfin, il y a vraiment toute une jeunesse là qui est un peu turbulente et dont je fais partie. Et pour la partie graphique, je m'intéresse aux pochettes de disques beaucoup. Au graphisme des pochettes, donc il y a beaucoup de photocollages, les dessins un peu dégueux. Je me mets à collectionner les flyers de concerts. J'adore les affiches de concerts, les affiches politiques aussi un peu. Et voilà. Et ensuite, je travaille chez un travail assez conventionnel. Hein, je suis dans la santé, mais je veux pas que ma vie se réduise à ça, quoi. J'ai envie d'autre chose, quoi. J'ai de l'énergie à dépenser et puis je veux pas me retourner en me disant merde, j'ai fait que ça, j'ai gagné des sous, je me suis acheté un 4x4. Je veux pas de ça en fait. Et je m'y mets quoi, vers 30 ans et tout DIY, quoi. Ouais, j'ai pas de bagage. Artistique, pas de formation.
Comment tu construis tes œuvres? En fait, c'est multiformat. Il y a du.
J'ai commencé en fait moi le. Alors j'aimais le photocollage parce que voilà un peu qui est un peu irrité du surréalisme hein, qu'on retrouve beaucoup dans les pochettes de disques hein, dans l'art punk. Et puis j'aime la technique du pochoir donc pareil que je retrouve aussi beaucoup dans les graphismes punk. Et je me mets à essayer d'en faire sur du bois flotté en fait que je suis pas d'un milieu urbain, je ramène des bois flottés de la plage et je me mets à faire des pochoirs dessus. Et puis on me dit que c'est bien, ça prend. Et puis de fil en aiguille, je me mets à faire des trucs dans la rue. Et puis je me mets à graver, je fais du collage, je me mets à faire de la sérigraphie. Enfin tout ça de fil en aiguille, quoi. Ouais.
Avec des références quand même littéraires, etc. Des slogans.
Ouais, les slogans. Bah, j'aime les affiches, l'affiche politique, ouais, ça, sauvage, ouais.
Que tu détournes.
Comment ça?
Est-ce que tu détournes le slogan? Est-ce que tu détournes une image? Est-ce que tu lui donnes un autre sens?
Ouais. En fait, j'essaye de faire en pochoir ce que je faisais en photocollage, c'est-à-dire que je crée à partir de deux images pop ou connues, je les assemble et je fais quelque chose d'autre. Et ce qu'on peut faire en photocollage, on peut essayer de le faire en pochoir, c'est-à-dire de mélanger deux trucs, d'en créer un autre, quoi. Ouais, j'essaye de faire ça, ouais.
Et c'est quoi des influences littéraires, par exemple?
Moi, c'est Joseph Conrad, ouais. Beaucoup. C'est mes livres de choses, c'est vraiment l'auteur qui me suit, quoi, que je relis régulièrement. Et autrement, en littérature.
En musique, ta référence punk, c'est quoi? Comme ça, ça leur laisse.
Là, on va leur laisser. Moi, je dirais Burning Heads. Ouais. C'est vraiment mon groupe français que je mets.
Vous avez ça?
Au-dessus de tout le monde.
Ah, ouais. Ils ont pas ça.
Ouais.
Mais pourquoi on vous embauche en fait?
Parce qu'il n'y avait personne d'autre.
On va tester avec vous. Est-ce qu'il y a, par exemple, un groupe que vous avez envie d'entendre, s'ils l'ont? Les Ramoneurs de Menhir. Vous êtes sûr? C'était s'il y a un ancien des Berlinois qui a créé les Ramoneurs de Menhir. Vous avez pas?
On a les Berus. On a Berus. Ah,
on va écouter les originaux. On va écouter les Berus. Ça va être plus simple. J'ai cru voir tout à l'heure Jean. Est-ce que Jean est par là? Jean, je te vois, Jean. Est-ce que tu peux venir un peu nous parler de Fiscal aussi? C'est hyper connu. Allez, viens avec nous. Allez, Jean, fais pas ton timide. Allez! Parce que justement, on parlait de DIY, mais ça m'intéresse aussi. Allez, viens t'installer avec nous, on va aller faire une petite place. Ouais, c'est ça, t'étais cool au fond de la classe, tranquillou. Allez, vas-y, installe-toi avec nous. Si, moi, ça m'intéresse d'avoir ta parole.
Ça va bien? Je sais pas où je m'assois.
Vas-y, assieds-toi là. Quand Guillaume parlait un moment de lieux squattés, de do it yourself, de faire tout seul, Fiscal, il est né comme ça en fait. C'est juste avoir un endroit et qu'on le fasse. Et puis tous, vous continuez à, puisque tu m'as encore envoyé une vidéo, ouais. Vous continuez tous à le construire avec de la récup, avec tout ça. Est-ce que dans ta tête, il y a un esprit punk ou c'est, pour toi, c'est quoi le punk d'ailleurs? Tiens, même ouais. Question qu'aux autres. Trois mots.
Je suis pas très à l'aise là déjà, je sais pas si on m'entend au micro, il y a pas mal de yeux qui me regardent. Peut-être partir déjà sur le fiscal. Le fiscal, c'est assez revendicateur. En gros, c'était pendant les gilets jaunes. Donc nous, l'idée, c'était de pas aller forcément sur les ronds-points, mais plutôt aller construire quelque chose plutôt que détruire des choses. Donc ouais, le fiscal, à la base, c'est un squat. Donc c'est un lieu qu'on a squatté, donc une ancienne ferme qui était abandonnée depuis 20 ans. Sur lequel, en gros, on a construit un skatepark. On parlait pas mal de Chour, hein. Le monsieur à notre gauche parlait de ça. On n'a pas acheté un grain de sable ni un caillou, en fait, sur le premier skatepark. Donc, c'était des missions de nuit pendant 8 mois. Donc, voilà, faut le dire, hein. Désolé.
Il y a prescription.
Il y a prescription, c'est il y a quelques années. Et avec quelques anecdotes, avec des... En gros, on s'est fait ramener par la police pas mal de fois. Enfin, voilà, c'était pas mal de choses assez... assez engagé, voilà, faut le dire. Aujourd'hui, on essaye de plus le faire de manière organisée. Donc, on organise des événements pour pouvoir être organisé, on va dire, légalement. Hein. Donc, on organise des événements pour pouvoir s'autofinancer et continuer à construire. Donc, ouais, la vidéo que je t'ai envoyée, donc de septembre dernier, donc on continue à construire du coup sur notre spot, mais dans l'idée, c'est de pas avoir forcément de financement public, parce qu'on est quand même maintenant monté en association. Mais l'idée, ouais, c'est de tout construire nous-mêmes. Parce que ça fait aussi partie de la culture skate, quoi. Donc c'est ce fameux DIY, le punk. Moi, ça me fait beaucoup penser aussi genre au Galion, donc qui était un bar concert à Lorient avec une grosse scène punk rock et alternative, quoi. Donc voilà, quoi, en gros sur la petite histoire, ouais.
Ok, on te garde, Jean, on pose des questions après. Après, on va parler de la nostalgie ou pas du punk. Les garçons, les Berus.
Let's
Salut à toi, oh mon frère. Salut à toi, peuple khmer. Salut à toi, l'Algérien. Salut à toi, le Tunisien. Salut à toi, Bangladesh. Salut à toi, peuple grec. Salut à toi, petit indien. Salut à toi, punk iranien. Salut à toi, rebelle afghan. Salut à toi, le dissident. Salut à toi, le chilien. Salut à toi, le petit malien. Salut à toi, le mohican. Salut à toi, peuple gitan. Salut à toi, l'éthiopien. Salut à toi, le tchadien. Salut à vous les partisans. Salut à toi, Choli allemande. Salut à toi, le vietnamien. Salut à toi, le cambodgien. Salut à toi, le japonais. Salut à toi, le thaïlandais. Salut à toi, le laotien. Salut à toi, le coréen. Salut à toi, le polonais.
Un peu vintage. Pourquoi nostalgie du punk? Mea culpa. En fait, moi, c'est la... J'avais le sentiment qu'il y avait eu parfois une petite dilution du discours, de l'engagement punk. J'avais aussi, une question que je vous poserai tout à l'heure, l'impression d'un mimétisme aussi, comme une boucle temporelle. Tu as parlé tout à l'heure de caricature des vêtements ou de la coiffure. J'avais l'impression que comme l'industrie du surf et du skate sont des gros broyeurs aussi de culture, j'avais l'impression qu'on était dans un digest de tout ça. Donc je me suis posé la question de la nostalgie du punk. Est-ce que le punk est encore vivant ?
C'est déjà compliqué ce que c'est quoi le punk finalement.
Ouais.
Parce que finalement, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un peu comme la poésie, quoi. Dès qu'on dit la poésie, c'est ça, il y a quelqu'un qui va inventer une manière de faire de la poésie qui ne correspond pas à ça. D'ailleurs, le punk, c'est pareil. Le punk, c'est quoi? Ça, c'est quelque chose qui serait apparu en Angleterre à la fin des années 70, mais en fait, il y a déjà des groupes punk, proto-punk, en Amérique dans les années 60. Il y a déjà des groupes de rockabilly beaucoup trop énervés, pour être honnête, dans les années 50. Et si on continue à remonter, il y a des... Même on peut trouver des disques de vieux jazz dans les années 30 qui sont, voilà, etc. Et on peut même remonter jusqu'à la fin du 19e siècle. Il y a des courants de gens complètement dissidents dans la poésie. Et je pense qu'on peut remonter comme ça jusqu'à la préhistoire. C'est dès qu'il y a dissidence, il y a une sorte de... C'est juste un mot en fait, qui a été sorti de l'argot. Ça voulait dire minable ou petite frappe. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. On le met sur un moment. Un moment où il y a des disques importants qui sortent, où il se passe un truc. Et puis on dit, voilà, c'est le punk. Mais le punk, en fait, il a toujours existé. Donc il n'y a aucune raison qu'il n'existe plus, quoi. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Et dans les free parties, dans le monde techno, on est dans le punk. Enfin, le punk, c'est pas... Il n'y a pas de définition du punk qui tienne, en fait, finalement, je pense. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus de nostalgie, je pense, dans le fond. Parce qu'il n'y a pas eu... ça ne correspond pas à la lettre d'un moment. C'est un esprit, quoi. Et cet esprit, dès qu'il y a dissidence, dès qu'il y a tentative pour inventer autre chose. Le punk, en fait, tous les gens que j'ai interviewés pour faire la BD, je leur posais à chaque fois la même question, celle que tu nous poses aussi, c'est quoi le punk? Et chacun avait sa manière de répondre, et jamais personne n'a répondu la même chose, déjà. Et jamais personne n'a associé ça à un mouvement musical, à un moment T. Et la plus belle réponse, c'est la petite Titi, qui était une des danseuses de Berrurier Noir, qui m'a dit que quand elle a vu arriver le punk, pour elle, c'était... inventer sa vie, quoi. C'est-à-dire, tout d'un coup, elle se disait, mais en fait, je peux m'habiller comme je veux, je peux faire mes fringues moi-même, je peux me couper les cheveux comme je veux, je peux me comporter comme je veux, je peux fréquenter qui je veux, je peux faire ce que j'ai envie, je peux créer, parce qu'après tout, la société ne m'a pas forcément autorisé à le faire, et tout d'un coup, je prends le droit de le faire, puisque tout d'un coup... Donc, en fait, c'est la découverte d'une liberté, quoi. C'est un point de liberté auquel on n'a pas toujours accès. Et ben, le punk, c'est pour ces gens-là, à cette époque-là, ça a signifié ça, et ça signifiera toujours ça, je pense, quelque part. Enfin, la recherche d'un point de liberté, l'exercice de sa liberté, faire ce qu'on a envie de faire. Donc oui, je pense qu'il y en a toujours, il y en a même plus que jamais, sans doute.
Guillaume ?
Ouais, en venant là, dans la voiture, j'écoutais justement la série documentaire sur le punk, et il y avait beaucoup de cinquantenaires, eux qui l'avaient, la nostalgie du punk, ça veut dire qu'ils n'en parlaient qu'à l'imparfait. Et je me disais, ah bah merde, soit eux se sont, je sais pas, dormés, embourgeoisés, parce que tu te dis comment, parler de ces pratiques dont tu as parlé, Arnaud, à l'imparfait. En fait, ça. Et je me dis plutôt, la question, ce serait comment ces expériences-là qui ont été puissantes, celles des années 70 et bien au-delà de la musique, hein, le punk, il invente une forme d'écologie urbaine, il invente la récup, le low-tech, il manifeste en vélo et il détruit des autoroutes dès les années 70 en Angleterre. Tu dis waouh. Et la question, c'est plutôt... qu'est-ce que ça produit aujourd'hui? Quels sont les liens? Et effectivement, là, après, on peut s'interroger sur la tronche de notre société aujourd'hui, qui est clairement plus normée qu'elle l'était dans les années 70. On est plus propre sur soi. On n'assume pas autant ce truc-là de voilà, si on reprend le décalage vestimentaire, etc. Et à la fois, bah, des pratiques punk, tu le retrouves dans le féminisme, le fait de refuser des injonctions à s'habiller d'une certaine manière, de se comporter d'une telle manière, etc. Donc tout ce qui est ce qui va venir froisser les normes, bah, souvent on n'est pas très loin de revendications punk. Et bah, pour l'avoir un peu expérimenté là sur l'enquête que j'ai menée pour dévier, bah, alors déjà sur ces questions de définition. Bah, c'est un peu comme la prose, en fait. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont punk et qui l'ignorent. Vraiment, il y a plein de gens qui, pour qui le punk, ça va être des fringues ou les punks à chiens ou de la musique. Et je connais, du coup, pour avoir fréquenté là, des gens qui venaient de cette mouvance-là et d'avoir un peu bouquiné sur la question, ah, bah, là, tu dis waouh, bah, le mouvement punk n'est pas mort. C'est qu'il y a plein de gens qui sont bah, dans cette bricole, dans ce non pas au refus de la consommation, c'est dans Dévier, je parle beaucoup du régime de fabrication, c'est la joie, et là Jean pourra sans doute en témoigner, la joie de fabriquer par soi-même, sans dépenser de thunes, en récupérant des trucs de manière plus ou moins légale, et du coup c'est pas tellement un refus de la consommation. C'est plutôt la joie de la fabrication. Et ça, bah, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui le partagent et pour moi qui sont dans une forme de, clairement, de culture punk, dans le refus d'acheter du neuf, dans, voilà, et de produire des choses qui sont des fanzines, qui sont des concerts, des bouquins qu'on auto-édite, on a parlé de la musique, etc. Et donc... quand on commence à tirer ces fils-là, et bon, je me permets de reparler de Jean, c'est aussi bah Jean, je ne sais pas, à un moment, tu as été, je ne sais plus si c'est toujours le cas, moniteur dans un club de skate. Et ce truc-là de dire, il y a aussi plein de gens, bah, c'est le cas des protagonistes du bouquin Dévier, qui ont une vie professionnelle, souvent à mi-temps ou à temps partiel, une vie qui pourrait être normée, mais la vraie vie, elle est ailleurs. Et ça aussi, je trouve que ça donne beaucoup à réfléchir. C'est que quand je parlais du punk comme mouvement no border, qui va au-delà des frontières, etc., ce truc-là de pouvoir naviguer d'un univers professionnel et d'avoir d'autres espaces où tu vas pouvoir fréquenter d'autres personnes, leur parler de ces pratiques-là, je trouve ça assez puissant, politiquement parlant, pour interroger bah, les normes qui nous traversent, etc. Et finalement, je ne me retrouve pas dans... Mais alors là, je ne suis pas du tout connaisseur pour ça, de la présentation dont on fait du mouvement punk des années 70, où c'est que de la rupture. Et je me méfie de ça. C'est comme les squats, quand on ne les connaît pas, on a l'impression que c'est un autre monde. Alors que quand on a fréquenté, c'est mon cas, pas mal de gens qui ont squatté, et bah, tu te rends compte que la pratique du squat, c'est forcément... la rencontre avec des voisins, c'est comme le punk. En fait, on a parlé de scène punk ou de milieu punk. En fait, tu ne deviens pas punk tout seul. C'est comme tu fais pas du DIY tout seul. Il faut que tu construises un milieu qui soit propice à ça. Et je trouve qu'on ne parle pas suffisamment justement du lien qu'il y a dans ces pratiques-là entre un monde normé et puis ce qu'on fabrique à côté.
Et je m'arrête là.
Yann ?
Ouais, bah, je me retrouvais un peu dans ce qu'il disait là, sur les gens qui ont une vie un peu conforme et puis qui s'échappent. Ouais, je me retrouve là-dedans. Et il y a de l'espace de liberté aussi qu'on se crée. Et, voilà, comme la liberté a tendance naturellement à se réduire comme une peau de chagrin, il faut des gens pour pousser les limites, quoi. Et voilà, donc transgresser, ouais, voler, faire des trucs interdits de temps en temps, voilà, sans faire de mal aux autres. Et c'est important, ouais, je pense, ouais. Ouais. Pour préserver la liberté de tous, quoi. Il faut, voilà, faut des gens qui poussent un peu les. Qui pousse sur les bords, quoi. Ouais.
Ok. En préparant cette session, j'ai cherché des traces de punk aussi dans le surf, plus facilement dans le skate. Et dans le surf, bon, il y a, voilà, on va dire des personnages. Il y a quelques années, présenté Biarritz Surf Gang sur ce gang de la grande plage de Biarritz dans les années 90. Mais en fait, à chaque fois, c'était en effet ce discours de liberté qui ressortait concernant le skate. Et je suis retombé sur, je vais vous lire trois lignes d'un ouvrage qui est assez étonnant. Je le ferai venir un jour. Raphaël Zarka, La conjonction interdite. Et en tout petit exemple, il dit dans un documentaire de 77 sur le skate au Trocadéro, deux enfants expliquent à la caméra, le skate, on en fait quand on veut et n'importe où. On l'a toujours sous la main et si on s'embête chez soi, on va en faire un peu sur les trottoirs. Tandis qu'un autre sport, on doit se rendre tel jour au club, mais c'est comme une contrainte à la fin. Le skate, c'est ça, Jean. C'est d'abord la liberté. Donc, en fait, quand cette musique-là, qu'on va appeler punk, skate punk, rock punk, etc., ça devient la bande-son du skate parce que, ouais, c'est ça la liberté.
Ouais, carrément. Parce que, comme on dit, en fait, on a tous commencé sur le trottoir devant chez soi, je pense. Après, on est forcément allé chercher un peu plus loin dans la rue. On est très vite confronté aussi, du coup, au monde de la rue, donc au SDF. Hein, moi, très jeune, hein, j'ai commencé le skate, j'avais 8 ans, parce que mon grand frère me faisait du skate. Donc, il me gardait, donc on allait streeter à Lorient. Donc, on connaissait le Marcello, on connaissait tous les SDF de Lorient, parce qu'on les côtoyait quasi pas quotidiennement, mais à chaque fois qu'on allait skater, quoi. Donc, oui, je trouve que l'espace est carrément beaucoup plus accessible, on va dire, en tant que skater, parce que bah, c'est clair, un pauvre trottoir, une ligne au sol, en fait, devient un module, une plaque d'égout devient un module, enfin un module. Voilà, donc oui, on est vite amené à pratiquer un peu où on veut, et librement aussi, quoi. Enfin, librement, quand on se fait pas jeter, quoi.
Toi, au quotidien, tu la gères, cette... Enfin, tu la gères. Pff. Au quotidien, c'est la liberté qui compte le plus pour toi.
Ouais. Je peux répondre aussi à ta question de tout à l'heure. Ça, j'y ai pensé un peu par rapport aux trois mots, enfin trois mots pour le punk. Pour moi, ça serait genre liberté, égalité, fraternité, quoi. Bah ouais, je pense que ça serait une belle.
Y a une personne que j'avais invitée qui a vraiment pas pu venir et pour cause. Elle s'appelle Solveig Serre. Elle est directrice de recherche au CNRS et elle s'intéresse de très très près au punk. Elle ne pouvait pas être là aujourd'hui parce que aujourd'hui elle a son propre événement qui a lieu tous les ans à Tours qui s'appelle Punk is Not Dead. N'hésitez pas à regarder ses travaux, c'est hyper intéressant. J'avais aussi invité quelqu'un qui écrit sous le nom de Finnegan's Skate. Mes vagues de béton, quelques fragments sur le skateboard. Et malgré mes tentatives via la maison d'édition, via son Insta en direct, il a pas voulu venir. Il veut garder son anonymat. Mais je vous conseille la lecture de Mes vagues de béton. Je sens que c'est quelqu'un qui est plutôt quarantenaire, qui a été skateur, qui a fait plein de trucs, qui s'est nourri avec les VHS de skate et qui s'est remis sur une planche il y a quelques années et ça a fait l'effet Madeleine de Proust. Voilà, lisez-le. En plus, c'est une petite maison d'édition. La variation, ça soutient les auteurs. Et je vous rappelle, Raphaël Zarka, La conjonction interdite, il a fait plusieurs ouvrages sur le skate. Et en fait, Conjonction interdite, il s'est beaucoup inspiré de travaux de Roger Gallois sur les jeux et les hommes, et sur les règles du jeu et les règles que souvent le skate ne respecte pas. Et c'est tant mieux, même si finalement il obéit aussi à des règles de jeu. Il va être l'heure qu'on aille boire un coup avant le film de 18h30. Je voudrais tous vous remercier, y compris les Vinyl Lovers, même si vous n'avez pas beaucoup parlé, vous étiez présents avec nous par le son.
Bonjour.
Et c'était top. Donc merci Julien, merci Vincent, merci énormément Arnaud. Donc la BD Vivre Libre ou Mourir est en vente dans toutes les bonnes librairies. Édition Glénat, que tu as co-signé avec Nicolas Moog. Jean, le fiscal, il est ouvert quasiment tout le temps.
Bah ouais, la porte ne se ferme pas. Je crois qu'actuellement ma caravane est encore ouverte.
Guillaume, tu viens de faire paraître donc Dévier, donc sur ces personnes qui décident de après des expériences de télétravail de faire autre chose, voilà, de passer à autre chose. Merci à toi Guillaume. Yann, bah merci à toi pour le premier jour d'expo ici. On prolonge l'expo tout le mois de février, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et on va se quitter avec un dernier son.
Carrément, vu que pour l'instant, on a écouté essentiellement des gars qui chantent. Il faut savoir qu'aussi dans le milieu punk, il y a aussi des filles, et heureusement. Et notamment, moi, je voulais vous faire découvrir ou redécouvrir un groupe qui s'appelle les Raincoats, qui est un groupe essentiellement féminin de Londres, de 79. Alors, petite info sur la pochette, là, à la base... Il y avait Tony Hawks, mais il était coupé au montage. C'est une petite info qui sert à rien, mais bon, qui fera toujours plaisir à ramener chez vous. Donc voilà, donc ouais, c'est ce dernier extrait du coup, et donc n'oubliez pas qu'on repasse des disques tout à l'heure pour l'heure de l'apéro.
Et on enchaînera avec Amil, une grande punk d'aujourd'hui.
Le punk, c'est une réaction au système. C'est...
Bing.